du soir. Les discussions du soir, Frédéric Worms.
Bonsoir Laurent Guimier.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté d'être le premier invité de ces discussions du soir.
Merci, c'est normal.
Je suis très heureux de vous accueillir dans ces discussions du soir, d'autant plus heureux que l'idée de ces discussions du soir, c'est un petit peu de les opposer à d'autres genres de discussions, celles qu'on pourrait appeler les discussions du matin ou les discussions de l'événement, c'est-à-dire que d'une certaine façon, les discussions du soir, c'est après coup. Il y a l'événement qui a eu lieu, et le soir on se rencontre entre amis, les uns et les autres, et on a plutôt envie d'en parler librement, de commenter, alors que quand l'événement survient, on est un peu obligé d'en parler.
L'idée que, à qui le dites-vous ?
Voilà. Et c'est de ça que j'aimerais beaucoup parler avec vous. On est pris, l'événement implique une parole, la parole fait partie de l'événement, mais d'une parole qui cherche à le comprendre, qui est un peu saisie par l'événement. Et le soir, c'est plutôt l'idée qu'on a dans ces émissions, c'est de plutôt prendre du recul, parler comme on parle entre amis, pas se couper du monde, essayer de comprendre l'événement. C'est dans les discussions aussi entre amis, entre citoyens, les citoyennes, entre les uns et les autres, avec leur point de vue, qu'apparaissent les sens des choses, mais en se reliant quand même à l'événement, mais d'une autre façon. Donc je suis particulièrement heureux de l'ouvrir avec vous, puisque vous êtes responsable de France Info, donc directeur de France Info, et donc plutôt pris en principe dans cette première parole, dans la parole de l'événement.
On n'a jamais l'habitude de faire ça. Jamais on discute d'un événement après. C'est même pas dans notre mission et dans notre métier.
Et en même temps, l'illusion ce serait de croire que vous êtes uniquement dans le constat, dans le factuel. C'est-à-dire de dire que ceci ou cela a eu lieu, qu'il y a eu des événements même tragiques, un attentat, une catastrophe, un événement donc quel qu'il soit, tragique ou pas d'ailleurs, on a l'illusion qu'il déboule, que c'est une météorite qui arrive, mais en réalité déjà vous l'éditez. Vous l'éditorialisez, vous le présentez, vous le mettez dans des mots. Et donc, moi, je serais très curieux de savoir, au fond, comment vous pensez l'événement, comment vous mettez des mots sur l'événement, quels sont vos réflexes, quelle est la manière dont vous découpez une grille dans laquelle rentrent les événements. Parfois, vous la bousculez, évidemment, l'événement vient bousculer la grille, mais toujours, l'événement est quand même déjà tissu, entretissé de paroles et de mots. Et c'est votre travail aussi de journaliste.
Oui, c'est un savoir-faire, c'est des méthodes.
Laurent Guimier.
Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand on est journaliste, mais comme dans plein de métiers, on se pose jamais la question de pourquoi on fait ça, de pourquoi on fait entrer tel événement dans tel format. Parce que tout ça, c'est juste l'addition de des pratiques, des savoir-faire de nos prédécesseurs, et comme en fond il est rassurant de juste s'inscrire dans les pas des prédécesseurs, et puis qu'on n'a pas forcément le temps d'inventer, et puis que c'est parfois dangereux d'inventer, moi je suis plutôt dans moi j'aime bien essayer de défricher, non pas de casser mais de défricher, j'essaie dans les petits moments où j'ai le temps de réfléchir avec les gens qui bossent avec moi de défricher, mais comme on va peut-être le faire là,
exactement. C'est vrai que c'est assez
déroutant. C'est assez déroutant parce que j'ai pas du tout l'habitude de parler de ça. C'est vrai qu'on répond à tout un tas de schémas, mais pour être très concret quand même sur France Info, moi ça a été une grande partie du boulot que j'ai fait depuis 2 ans depuis que je suis arrivé. C'était justement, et vous avez tout de suite employé les codes et les mots de la radio, la grille de France Info. Alors c'est effectivement tout un tas de rendez-vous, parce qu'on sert un public qui lui a des, il faut quand même pas oublier le public.
Le
savoir-faire, c'est pas uniquement le savoir-faire de l'artisan, c'est aussi quand même la personne qui va venir chercher des choses. Et la personne, elle a besoin de repères, elle a besoin de se dire à telle heure, je vais avoir un journal, je vais avoir ce que je veux. Mais pour le reste, c'est vrai que moi, une grande partie du boulot que j'ai fait, c'est de faire en sorte qu'il y ait rien dans la grille.
C'est-à-dire que c'est juste une grille, mais
c'est que le métier de journaliste, le métier de journaliste à France Info, ça soit de dire. J'applique tout un tas de méthodes, de principes qui tiennent à la recherche de la vérité, du partage, de l'équilibre. Après, on essaye de s'abstraire au maximum des codes de grille, d'horaire, de format. On fait en sorte que l'événement, alors c'est sans, vous avez parlé d'illusion tout de suite, donc c'est bien parce que comme ça,
l'illusion,
on essaie de s'abstraire de l'idée qu'il y a quelque chose d'hyper formaté qui fait que un article fait 40 secondes et puis un son fait 50 secondes et puis
l'illusion pour moi c'est, j'avais en tête l'idée que l'illusion c'est de dire voilà on vous raconte l'événement dans l'instant où il survient parce que c'est aussi l'urgence l'actualité au fil de l'eau un petit peu au fur et à mesure et l'illusion ce serait de croire justement que on ne fait que dire une chose qui tombe alors qu'on a déjà le cadre pour l'accueillir et ce qui est frappant c'est que dans une radio d'actualité vous avez un cadre même pour ce qui vient bousculer le cadre. C'est-à-dire, vous avez des flashs d'urgence, des interruptions, même l'interruption de la grille fait partie de la grille.
Oui.
Donc, vous avez déjà des cadres, et ça, c'est extrêmement important, j'allais dire, pour le public dont vous parliez.
Ah, c'est des repères. On a tous besoin de repères. L'artisan et le client, entre guillemets.
Absolument. Mais c'est même pas seulement des repères psychologiques, c'est aussi, ça rassure moralement, politiquement, socialement. C'est-à-dire, un événement qui vient bouleverser quelque chose.
Je sais, ouais.
Grâce à vous, en un sens, mais aussi le revers de la médaille, qui est que le cadre, précède l'interprétation, mais en même temps, l'existence du cadre rassure. C'est-à-dire, l'événement n'a pas tout détruit. Il y a déjà un cadre, il y a déjà des gens qui en parlent. Et cette responsabilité de nommer l'événement, de l'inscrire dans un cadre, comment est-ce que vous l'interprétez?
Vous avez raison, parce que ça lui confère tout de suite une importance, un statut.
Oui.
Qui fait que l'événement lui-même il n'est pas neutre. Enfin, il obtient tout de suite le statut et c'est vers ça que vous voulez m'amener sans doute. C'est de dire que on décrète qu'une information est à ce point importante qu'elle bouscule le reste et donc qu'elle écrase tout et qu'il faut qu'on en parle.
Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la manière dont le langage fait partie de l'événement.
Ouais.
Dans cette émission du soir, des écrivains, des spécialistes de sciences humaines, des gens que vous invitez aussi d'ailleurs d'autres rapports à l'événement, pour réfléchir aussi à d'autres rapports à l'événement, c'est-à-dire au langage de l'événement. Et si je prends un exemple, vous-même, vous êtes forcément confronté à cette question du langage, qui est aussi la question de la définition de l'événement, de ce qui se passe. Mettons que, par exemple, il y ait une catastrophe. Disons, c'est le terme déjà, il n'est pas neutre, disons un grand nombre de victimes d'un événement soudain.
D'accord, imprévu.
Imprévu.
Ouais.
Voilà. Et la question, c'est de savoir, par exemple, si oui ou non, c'est un attentat. Donc, très très vite, employez le mot tout de suite, j'imagine pour vous, c'est pas possible.
Non, parce
que... attendez d'avoir des éléments.
Oui, puis on a des critères, là, pour le coup, évidemment, de validation. Voilà. C'est-à-dire que, en l'occurrence, on attend qu'une parole officielle. D'État qualifie l'acte d'un acte terroriste. Ça, c'est ce qu'on fait en sorte que les sources judiciaires et politiques, ou politico-judiciaires, qualifient l'événement.
Donc, dans l'ordre de vos interlocuteurs qui vous permettent d'employer tel ou tel mot, finalement, vous allez assez vite, et même très très vite, du témoin, peut-être, vers les autorités, qui donnent aussi un cadre,
puis vers les spécialistes. C'est en même temps. La priorité, c'est quand on est... Alors là, pour le coup, ça renvoie quand même à la fonction du journaliste, et enfin, on en parlera sans doute, mais qui est beaucoup plus compliqué, moi je le dis, ça plaît pas à mes glorieux aînés, mais qui est beaucoup plus compliqué qu'il y a 10, 20 ou 40 ans.
En plus avec des événements en ce moment qui sont particulièrement...
Les événements, mais même la façon dont l'information arrive, dont elle nous parvient, fait que aujourd'hui, justement, nous sommes beaucoup plus qu'avant confrontés directement à un événement. Alors que il y a 20 ans, par exemple, avant qu'un événement, non pas se produise, mais arrive dans les rédactions et donc après sur les ondes, il y avait des filtres. Il y avait des filtres des sources, des politiques, ou des pompiers. Et donc, il y avait toute une remontée de l'événement qui faisait qu'il était qualifié d'une certaine façon, qu'il était ensuite transmis aux journalistes, aux rédactions. Aujourd'hui, l'événement survient,
mais pas non plus de nulle part. Les gens arrivent avec leur téléphone, mais le téléphone, c'est pas rien, c'est déjà un cas.
Oui, mais vous dites les gens.
Les gens,
le public, les citoyens, nous sommes non pas journalistes, non pas médias. Nous sommes en capacité à transmettre un événement qui n'est pas encore une information forcément. Et le boulot du journaliste, c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui.
Absolument, bien sûr.
C'est qu'un événement survient et qu'on est obligé, ou qu'on s'oblige, Ça, c'est vrai. On s'oblige quand on est journaliste, et surtout dans une chaîne d'info. J'ai aucun problème à dire que, effectivement, pour certains, nous, on est la caricature de l'information. Mais on est obligé nous-mêmes d'aller qualifier l'info, alors qu'encore une fois, il y a 10, 20 ou 30 ans, tout ça se passait différemment.
Effectivement, je pense qu'il y a les choses qui ont changé. Donc, pour vous, j'imagine que vous citeriez les moyens de communication en général, les téléphones, les images, la transmission des informations.
Ah bah moi, je suis obligé.
C'est fondamental. Ouais, mais en même temps, ce travail de grille, ce qui me frappe beaucoup, moi, vu de l'extérieur, un petit peu comme témoin, comme tout le monde, j'allais dire, c'est aussi qu'il y a. Vous devez filtrer, bien entendu. Si quelqu'un vous envoie une photo son chien écrasé, vous en faites pas un flash d'urgence sur France Info. Non, inversement, il y a un grand nombre d'événements peut-être majeurs dont on n'a pas d'image. On peut être aussi surpris du fait que... moi, je suis très surpris du fait que dans le monde d'aujourd'hui, on pourrait croire qu'il n'y a plus rien d'important qui nous échappe. Or, il y a aussi des pays qui organisent la censure, des grandes poches de silence, des grandes catastrophes silencieuses dont on parle évidemment moins que les grands événements soudains.
C'est vrai.
Et donc, vous devez quand même encore écarter certains événements et aller en chercher d'autres.
Oui.
C'est-à-dire vous allez aussi envoyer des gens chercher des informations là où il n'y en a pas.
Oui, on essaye d'avoir les moyens de le faire. Mais la première partie de ce qu'on a décrit tout à l'heure cannibalise tellement, énormément, notre travail. Parce qu'aujourd'hui, devoir, quand on est une rédaction, avoir accès via un téléphone, via une image, via Internet, à une donnée, à une information, ou ce qui ressemble à une information, et devoir le vérifier, le qualifier, pour ensuite le donner, le porter à la connaissance de nos auditeurs, fait que ça prend une grande partie du... Là, je parle en organisation.
Oui, je comprends très bien.
Le temps... La part, l'énergie qu'on doit consacrer, parce que ça fait partie du boulot, à ce que vous décrivez, qui est tout aussi important, eh ben, elle est réduite. Elle est moins. Pour moi, je pense, vous avez raison, c'est une des raisons pour lesquelles on critique autant les journalistes et encore plus les chaînes d'information.
Mais en vous écoutant, je me dis qu'on a tort de se focaliser justement sur vous comme source numéro un, parce qu'en fait, vous êtes déjà une médiation très importante.
Ah mais de plus en plus, nous sommes des médiateurs.
Vous êtes des médiateurs.
De moins en moins, nous sommes des sources.
Ce qu'on oublie, c'est que... Voilà, vous êtes une médiation fondamentale. Et ce qu'on oublie, c'est que, en réalité, on n'est pas entre la chaîne d'info et la chaîne de culture, mettons, la discussion du matin et la discussion du soir, simplement. Ouais. Ouais. Mais on est la discussion du matin ou de l'événement, celle qui, le commentaire à chaud, est déjà un filtrage par rapport à l'océan, disons, de l'information qui circule sur Internet, l'avalanche constante de nouvelles.
Moi, j'appelle ça le tsunami. Quotidien qui nous tombe sur la figure et que nous devons sur lequel nous devons surfer.
Et donc on a l'impression en se branchant sur France Info qu'on est face au tsunami, mais en réalité on est bien loin déjà du tsunami.
Bien sûr.
A déjà été au fond, vous êtes le service qui a déjà un peu surveillé la plage, préparé l'évacuation et au fond préparé les conséquences du tsunami.
Dans le meilleur des cas, c'est ça. En tout cas, moi c'est comme ça que je conçois le boulot d'une chaîne d'information, de faire en sorte que ce tsunami, pour reprendre l'expression, mais enfin cette avalanche d'informations, mais qui s'abat sur tout le monde, pas sur les rédactions, enfin tout le monde.
Il suffit de se connecter en ligne.
Tout le monde est confronté à ça. Faire en sorte que notre utilité, si on parle d'utilité, quand je pense en plus on travaille dans un service public, on se doit l'utilité. Notre utilité, c'est ça, c'est de permettre aux gens de pas forcément avoir besoin de se connecter ou d'être soumis à ce déluge quotidien.
Mais alors si on dit que vous êtes une médiation, donc d'un côté vous nous permettez en effet de filtrer, de résister à ce torrent et puis d'identifier ce qui est une vraie catastrophe de ce qui est simplement une avalanche de mots.
Ou rien
parfois, ou une fiction, ou pire que rien, c'est-à-dire un mensonge et finalement une manipulation, il y a aussi évidemment tout ça. Donc d'un côté vous êtes par rapport à ce déluge premier en quelque sorte, et de l'autre côté vous êtes aussi une médiation par rapport au temps long, par rapport aux gens qui essaye de réfléchir à l'époque, essaye de, d'exprimer des positions réfléchies, subjectives, aussi théoriques, scientifiques, politiques et autres. Et donc, ma question, c'est aussi comment est-ce que d'un côté, vous filtrez l'événement, d'un autre côté, vous répercutez les réflexions. Comment est-ce que, et votre langage, comment est-ce qu'il se situe à la charnière entre finalement l'irruption de l'événement d'un côté et de l'autre côté, la production du savoir, du commentaire, dont les gens ont besoin aussi. L'attente, c'est pas seulement l'événement, la grille, c'est l'événement, la grille, le sens, la réflexion.
Alors là, je peux vous répondre facilement de dire.
Ah, je m'inquiète beaucoup parce que si c'est facile, c'est mauvais signe.
Mais non. Bah, c'est sans doute ça. Ouais, c'est sans doute mauvais signe. Ouais. Non.
C'est peut-être bien. Ça veut aussi, dire que c'est un sujet pour vous. Vous y
réfléchissez. Mais bien sûr que c'est un sujet. Bien sûr que c'est un sujet. Je peux vous répondre facilement en disant que Radio France, c'est une addition de radio, d'antenne, de principe d'antenne et justement de rapport au temps de l'information qui sont extrêmement différents et qui, de mon point de vue, ont vocation à être de plus en plus différents d'une antenne à l'autre. Je pense que même quand on s'appelle France Info, qu'on a 30 ans, parce qu'on va avoir 30 ans cette année, on n'a pas vocation à jouer sur toutes les gammes de l'information et que on a une vocation.
Alors ça m'intéresse forcément beaucoup puisqu'ici on est même dans le.
Alors ça va, ça vous déçoit pas trop dans ce que je.
C'est-à-dire ça me déçoit pas, ça me paraît légitime d'une certaine façon de dissocier les temps dans des lieux et dans des sites et des discours différents. Et en même temps, il faut pas qu'ils soient totalement coupés les uns des autres. Donc la question c'est comment est-ce
que
respectant votre temps à vous sur France Info, comment est-ce que vous pouvez juste fournir une accroche vers le temps plus long? Vous le faites d'ailleurs, vous invitez non seulement des experts de l'immédiat, j'allais dire, mais aussi des experts du temps long.
Oui, on le fait pas beaucoup parce qu'on préfère
Vous faites une charnière.
Oui, on fait des charnières et puis on dit à nos auditeurs d'écouter France Culture aussi. Non, c'est une boutade.
Non, mais c'est important, je pense.
Mais ça en fait partie. Enfin, et puis surtout, on fait confiance. Enfin, moi, pour le coup, je pense qu'il faut aussi se dire que. Enfin, il faut relativiser aussi la position passive supposée dans laquelle se trouve
tout à fait
le public et nos auditeurs.
C'est ça que je trouve très important.
On n'attend pas. On sait très bien que les auditeurs, ils sont pas à genoux, les bras en croix devant leur transistor. Donc,
mais ce qui m'intéresse, c'est votre connexion entre votre temps qui est forcément court
et au reste.
Oui, mais elle est double cette connexion, il me semble, avec le temps long. C'est-à-dire, d'une part, mettons, il y a un attentat.
Ouais.
Bon. D'une part, vous allez évidemment d'abord
aller sur place,
cadrer le langage, l'événement, comme on vient de le dire, les autorités, avec votre rigueur déontologie journalistique qui est fondamentale, sans laquelle le monde s'écroule. Donc, je trouve que c'est extrêmement important. Et puis, vous l'ouvrez aussi sur des savoirs, c'est-à-dire vous allez inviter des experts qui vont tout de suite pouvoir permettre de développer un petit peu. Ça, c'est une première ouverture qui est quand même très importante et que vous faites, puisqu'on est dans une conversation libre. Moi, j'ai été parfois aussi sollicité pour nommer l'événement, c'est pas facile. Ouais. Mais d'un autre côté, votre connexion avec le temps long, elle est aussi en amont, je dirais. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a un mot qui circule beaucoup dans le débat sur les attentats. Donc, il y a des mots qui nomment l'événement et puis il y a des mots qui sont déjà des interprétations et pris dans des querelles.
Ouais.
Par exemple, c'est le mot radicalisation.
Ouais.
Bon. Vous diriez, je pense que sur France Info, comme partout, on entend, il y a une enquête sur la radicalisation, etc. En réalité, ce mot, il cristallise des débats de sciences sociales, une interprétation, un enjeu très important, en fait. Donc, vous avez aussi cette connexion avec des mots qui sont chargés de sens. Et c'est normal, et c'est très important. Mais simplement,
vous êtes sympa,
comment est-ce que vous
pourriez dire qu'on est conditionné?
C'est la question que je vous pose. C'est la question que je vous pose. Est-ce que pour vous, c'est un conditionnement que les intellectuels et les médias de temps long vous permettent ou vous imposent? Est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est une contrainte? Parce qu'en même temps, c'est une force. Si vous n'aviez pas ces mots-là, s'il n'y avait pas des débats intellectuels qui construisent ces mots, ces problèmes, vous seriez plus démunis encore. Parce qu'il y a quand même quelques repères. Est-ce que c'est de la radicalisation? Ça permet au moins d'appréhender un peu de ce qui est un peu impensable aussi. Il y a dans l'événement des choses de l'impensable. Il y a des violences terribles ou même des...
Moi, la seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'on... On fait attention à ce qu'on dit. Enfin, je vais vous en dire, c'est vraiment... c'est peut-être pas du niveau d'autres conversations, mais c'est comme
non,
ça.
Non, 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 c'est le cœur du problème.
Avant d'aller à l'antenne, avant d'écrire quelque chose, avant de le dire, on soupèse, on se pose énormément de questions. Mm-hmm. Après, chacun a son prisme, chacun a son... Mais après, il y a un format d'antenne. Mais vous avez... Enfin, effectivement, le mot radicalisation... Alors, bon, en l'occurrence, le mot radicalisation...
C'est bien qu'un exemple. Hein,
oui, oui. Et là, celui-là, pour le coup, je vais être honnête, on va pas se poser tous les jours la question de l'utilisation. Non. Et d'où vient, d'ailleurs, cette question de l'utilisation du terme radicalisation. On va dire qu'en surface... les journalistes d'info en continu que nous sommes, en surface, attribuant à, on va dire, un consensus ou une apparence de consensus politique et judiciaire, l'emploi du terme radicalisation. On ne va pas beaucoup plus loin dans les tréfonds de la genèse ou de l'émergence du mot.
Ce que je voulais dire par là, c'est qu'entre un débat sur France Culture, mettons entre tel et tel intellectuel d'aujourd'hui sur la radicalisation, et un flash de France Info qui emploie le mot, il y a des liens. Oui. Ce n'est pas coupé, c'est-à-dire que les mots... Et c'est important de faire vivre ce lien, je pense, même si ce n'est pas possible dans l'instant de l'événement, mais
qu'est-ce
d'en
que
avoir
vous voulez
conscience.
Dire ça veut dire quoi?
Ça veut dire, au fond, j'imagine aussi, pour vous, essayer de se rapporter au texte, au livre des uns et des autres, même dans votre travail préparatoire. C'est-à-dire préparer le cadre intellectuel de l'événement.
Je suis d'accord.
Et je prends un autre exemple qui nous a beaucoup frappé l'an dernier, dans un cadre pédagogique institutionnel. Donc, il y a aussi toutes sortes d'institutions qui... sont toutes mobilisées face aux événements d'aujourd'hui, c'est normal, c'est le mot « migrant » par rapport à l'événement. Donc les mots ne sont pas neutres. Si on dit « migrant », c'est une chose, si on dit « réfugié », voilà.
« Déplacé ».
Voilà. Oui. Comment est-ce que vous, là où vous êtes aussi, vous anticipez l'usage de ces mots, vous les codez, c'est normal, ensuite pour votre urgence, mais en amont et en aval.
En amont, effectivement, un mot émerge, on se pose la question. Lorsqu'il y a une émergence brutale, rapide, instantanée, spontanée, il n'y a rien de spontané,
c'est
mais
ça.
D'un mot, quand même, en général, là je vous rappelle, je vous raconte la fabrique de comment ça se passe chez nous.
Justement, discuter ce que j'appelais la fabrique du commentaire.
On se dit, la direction de la rédaction, tiens, il y a... quel mot on emploie?
Voilà.
Alors, la première raison, c'est d'abord, c'est de la cohérence d'antenne. C'est de se dire, voilà, on utilisera ou on n'utilisera pas ce mot. Et puis après, il nous arrive aussi, évidemment, au-delà de la cohérence, de se dire, mais au fond, pourquoi on utilise ce mot? Enfin, on a ce débat avec, et ça arrive qu'on l'ait, moi je le souhaite, et on le fait dès qu'on peut, quand on en a la possibilité, même si, la pression du temps est telle que on doit toujours décider dans l'urgence sur une chaîne d'information, c'est pour ça que c'est marrant cette discussion, parce que c'est vrai qu'on parle de choses dont on n'a pas vraiment le temps de discuter, sauf deux fois par an quand on fait un séminaire en dehors de la radio. Juste pour vous dire et on se pose la question, il y a la société des journalistes qui sont les représentants des journalistes élus par leur pairs pour justement porter les questions d'éontologie, et puis on se met autour d'une table et on discute. Alors ce qui est vrai, c'est qu'on discute, pour rester dans la fabrique, en cercle fermé. D'accord. On n'a pas, il n'y a pas dans la tradition des rédacs de faire appel à
des témoins. Dans la discussion elle-même.
On n'intègre pas.
D'accord.
Et c'est même pas une question de temps. Je pense que c'est une question d'habitude.
D'accord.
On n'intègre pas toutes les personnes qui seraient susceptibles de nous éclairer, de nous dire tiens.
Chose qui me frappe, plusieurs choses qui me frappent, je vous interrogerai aussi tout à l'heure sur le passage de la voix à l'image, Laurent Guimier, parce que c'est aussi dans votre actualité, si j'ose dire, et c'est quand même très important aussi, parce que l'une des différences, c'est justement que la voix est d'emblée dans le langage, même si elle peut être dans l'émotion, dans la colère, dans la polémique, dans le cri, dans tout ce qu'on veut, mais il y a aussi tout de suite quand même, on est dans l'élément de la discussion, justement, alors que l'image est plus dans le trauma, dans l'événement, dans ce qui survient, disons. Mais avant d'en venir là, il y a une autre question que je me posais en vous écoutant, ouais. c'est l'intervalle entre les événements. Une des choses qui peut beaucoup frapper aujourd'hui, il me semble, c'est que les attentats, par exemple, ou bien aussi les grands changements politiques d'aujourd'hui, ou bien les questions des migrants, sont des choses qui se répètent. Et à chaque fois, on est surpris. Mettons, il y a un attentat, on est absolument sidéré, on est dans l'événement. Mmh. Et puis, heureusement aussi, c'est normal, on l'oublie pas, mais on le suspend et on reprend la vie. Et puis, il y a un autre, et on a l'impression que cette répétition fait partie de la dureté de l'époque aussi, fait partie des choses. Et je me demandais, comment est-ce que vous la voyez? Est-ce qu'on est toujours pris de court, ou est-ce qu'il faudrait pas aussi, dans l'entre-deux, continuer à en parler? Et au fond, sans au contraire, de céder à la panique, pas du tout pour entretenir l'inquiétude, mais pour construire un cadre qui permet, quand quelque chose survient, de dire, voilà, on sait que ça ne vient pas de nulle part, on commence à comprendre comment y résister, comment construire le monde malgré tout, comment y répondre, etc. Entre les urgences, qu'est-ce qu'il y a entre les urgences?
Il y a effectivement, oui, c'est exactement ça. Alors, je crois malheureusement, et sans qu'on l'ait prévu, qu'on est entré dans cette ère-là, sur une chaîne d'info comme France Info. Oui. On a été amené, depuis le dernier acte terroriste qui était commis sur le territoire, à décrire ce cadre.
Faire une sorte de chronique.
Des écoles qui vont devoir vivre avec. Oui. Mais l'entre-deux, en fait, il y a ce qui se passe à l'antenne, mais c'est beaucoup plus important, d'évoquer cet entre-deux dans la fabrique de l'information. C'est-à-dire que ça va se passer dans quelques semaines à France Info. On va réfléchir à tout ça, pour le coup. J'ai pas prévu d'en parler comme ça, mais je le dis parce que ça m'évoque ça.
C'est important.
Ça m'évoque ça parce que
sur les attentats précisément.
Après les attentats, en fait, enfin après Saint-Étienne-du-Rouvray, ouais. J'ai dit à mon équipe, on va quelques semaines après la rentrée, on va, pour tous ceux qui veulent, on va se retrouver, et puis on va parler de ce nouveau cadre dans lequel on va travailler. On va devoir travailler. Alors avec tout ce qu'implique en fait cette nouvelle
Je crois que ça me paraît important. Je ne sais pas comment construire le temps intermédiaire, qui est le temps où nous vivons, tout simplement. Mais c'est important parce que
c'est important éditorialement. Humainement, psychologiquement, peut-être que vous viendrez en
vous me rendrez l'appareil,
mais non, mais c'est vrai que c'est important,
parce que
pour le coup, alors bon, moi ça ne fait que 2 ans que je travaille sur une chaîne d'information, mais ça fait une grosse vingtaine d'années que je suis journaliste, et je pense que ça tient pas au fait que j'ai 45 ans et que je me dise bon, il est temps de se poser. C'est que je pense que le journalisme, mais comme tous les citoyens, comme nous tous, on est confronté à quelque chose de nouveau, de durable, qui fait qu'on doit repenser à peu près notre façon de vivre professionnellement.
D'ailleurs, il n'y a pas que les attentats. Les attentats sont une sorte une des lignes du présent, sombre, mais il y a aussi d'autres types d'événements, parfois sombres, mettons les changements climatiques, les changements écologiques, mais qui sont aussi suivis, eux, d'actions.
Ouais.
Et donc, là aussi, parfois, on est pris de court. C'est-à-dire, là, mettons, dans cette fin d'été, il fait très chaud, on est sidéré, il peut y avoir tel ou tel...
Il ne faut pas caricaturer quand même, le réchauffement.
Mais ce que je veux dire, c'est que là aussi... on est dans la répétition d'événements discontinus. Comment construire le fil qui permet de dire, voilà, dans quel monde on vit aujourd'hui, caractériser l'époque.
Après, en même temps, là, vous décrivez aussi une vision cyclique de la vie, de la vie en société, enfin, qui est juste normale.
Qui est absolument normale.
Le rythme des saisons et
tout
de...
Tout à fait.
Je veux pas citer Cosmos, mais je veux pas faire du Michel Onfray, mais, non, mais on est là-dedans.
Si on retourne au mot actualité, l'actualité, c'est ce qui importe pour notre vie au moment présent. Ouais. Et on a un corps. C'est vrai que s'il est menacé par une urgence, c'est normal qu'il réagisse à l'urgence. Et après, il prend son temps long. Donc l'actualité, c'est le vital d'une certaine façon. Ouais. C'est le vital et le mortel, c'est l'urgence. Et elle peut prendre la forme d'un événement naturel, d'un événement politique, aussi des formes joyeuses, évidemment. Il y a aussi des événements joyeux. Donc Je crois que c'est effectivement très important de construire le temps long. Peut-être on peut venir à cette question de l'image. Il y a aussi d'autres questions dans la construction du discours. Par exemple, le cadre, comment vous hiérarchisez les événements, effectivement. Comment le cadre politique, les événements sportifs, les événements...
Il va nous falloir une semaine. Hein.
Il nous reste un quart d'heure. Il nous reste un quart d'heure, mais c'est très important de discuter de tout ça. Alors, disons un mot maintenant de ce que pour vous change le passage de l'audio au vidéo ou de la radio à la télévision. Alors, et à l'image.
Je veux pas banaliser ce qui se passe là aujourd'hui, parce qu'effectivement France Info devient aussi une télévision. Mmh. Mais ça fait 10 ans que l'image a fait irruption. Dans les rédactions, dans toutes les rédactions. Évidemment, en presse écrite, il y a toujours eu de l'image, un rapport à l'image, mais l'image fixe, l'image éditée, l'image... Oui. Là, on parle de l'image immédiate qui s'impose, qui écrase les mots. Mais ça fait 10 ans parce que c'est Internet qui est la rupture. Si on parle de temps long, moi, j'essaye un peu de réfléchir à tout ça. Il y a quelques mois, j'ai écrit un petit texte que j'ai mis en ligne. Je fais assez peu ça, mais parce que ça fait 10 ans.
J'aurais dû le lire, pardon.
Mais... Non, je dis pas ça pour ça.
Non, mais ça aurait été. Mais allez nous le résumer.
Qui s'appelait J'ai 10 ans. Et parce qu'il y a 10 ans, je suis parti tenter une aventure sur Internet, où j'ai quitté la radio. Et j'étais fasciné par le début de l'information en ligne, des sites Internet, etc. Et la rupture fondamentale, là, il s'est agi d'une rupture fondamentale qui a frappé ou qui a concerné pour le meilleur et pour le pire, je dis pour le meilleur, les rédactions, c'est l'irruption de l'instantanéité du web et donc de l'image qui s'impose en direct dans toutes les rédactions.
C'est-à-dire pour les rédactions, c'est forcément en vue du meilleur, puisque les rédactions, c'est leur travail de faire le meilleur avec ça. Oui. Mais l'irruption de l'image sur Internet, c'est vrai que c'est pour le meilleur et pour le pire, puisque en elle-même, disons, avant d'arriver aux rédactions.
Je dis pour le meilleur si on n'est pas dans une situation passive.
C'est votre visée du meilleur.
Si on se dit...
Face à la possibilité du pire.
Le tsunami du pire est quotidien, et c'est à nous, d'être capable justement de voir de sentir l'image, de se l'approprier, de la dompter, de la refuser.
C'est vrai que si on s'occupe pas de l'image, elle va entrer dans des circuits qui sont dans une circuit d'information parallèle, voire de soupçons à l'égard de l'information légitime.
Mais ils sont déjà.
Et donc la responsabilité d'affronter les images, c'est de les faire entrer dans ce cadre construit, légitime, avec une norme, avec une déontologie, qui après peut permettre la discussion critique.
C'est toujours la même chose. Et moi, c'est ce qui m'oppose souvent à des confrères je vais pas dire conservateurs parce que c'est connoté négativement les contradicteurs, c'est pas conservateur, mais soit vous vous appropriez les problèmes et vous les affrontez, soit vous dites c'est pas pour moi. Et c'est ce qu'on a vécu il y a 10 ans sur Internet, c'est-à-dire parce que pendant des années, on a dit, le web, c'est pas pour les rédactions. Nous, on fait de la presse papier, écrite, avec un temps long, édité. Et moi, j'ai toujours plaidé pour que, pour aller au contact, pour se dire, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet. Allons-y.
Je pense que vous avez raison, pour des raisons fondamentales, parce qu'en fait, on peut pas être pour ou contre une technique, quelle qu'elle soit, mais il faut être pour ou contre certains usages de cette technique. Et donc, il faut évidemment... ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas les webophiles ou les webophobes. Enfin, c'est vraiment plutôt comment en faire un usage, comme vous disiez, pour le meilleur.
J'ai toujours pensé que surtout, c'était vital pour la profession, sans être corporatiste. Et ça, c'est ce que j'écrivais dans mon petit texte. Il faut juste se dire que personne n'attend les journalistes. Enfin, je veux dire, c'est bien sûr qu'on a... Enfin, je parle même pas de la popularité des journalistes. Je parle pas de code de popularité. On s'en fout un peu. C'est pas ça. Mais c'est la nécessité de se dire dans une société, est-ce que j'ai besoin ou pas des journalistes? Il y a cette illusion aujourd'hui, dans ce grand bain de l'information continue, qu'il n'y a pas besoin des journalistes. Que les gens, effectivement, sont témoins d'un truc, ils le mettent sur Facebook, et puis après, les gens en font leur miel. Ben, en fait, non.
Exactement. Mais alors, comment est-ce que vous allez prouver cette nécessité et déjà cette médiation du journalisme qui met des mots déjà, qui éditorialise sur l'image? Comment est-ce que vous allez faire pour que l'image n'impose pas son rythme encore plus immédiat, encore plus pressant, encore plus oppressant par rapport aux commentaires et au langage.
Bah, on va essayer, à la télé, hein, avec nos confrères de France Télé, d'imprimer une ligne éditoriale et une antenne qui sera un peu différente, même si c'est une chaîne d'information, qui sera différente de ce que font nos confrères aujourd'hui. Et qui
alors, exemple d'une différence, ça m'intéresse beaucoup. Pour
ah bah, c'est simple.
Justement, parce que cette différence va être très importante politiquement.
La différence, c'est la gestion du temps. Vous parliez d'édition spéciale, soyons simples.
Ouais.
On va pas parler d'attentats, on va pas essayons de parler de choses moins traumatiques.
Voilà.
Un événement subi qui, sur une chaîne d'information, parce que ce sont les codes d'aujourd'hui des chaînes d'information en France, hein, parce qu'il faut regarder un peu ailleurs, mais en France, effectivement,
un événement médiatique
survient.
Qu'est-ce que médiatique ?
La narration, les principes éditoriaux, la ligne éditoriale des chaînes d'information existantes, c'est d'en parler toute la journée de façon entre guillemets interminable pour ceux qui critiquent ou très très longue pour l'agnostique que je me dois d'être, puisque je suis confraternel. L'idée c'est de se dire oui, un événement comme ça se produit, il commence, on le traite, mais on va être en capacité de savoir s'arrêter au moment qui nous semble le plus éditorialement opportun.
D'accord.
Et effectivement, c'est ce que je dis, le problème n'est pas le breaking news, c'est le débreak, pour parler en bon français. C'est de se dire, il s'est passé quelque chose, mais en conscience, dans la rédaction, on est une chaîne d'information, on est capable de se dire, au bout d'une demi-heure, c'est fini.
Voilà, c'est pas cet événement-là a été important à ce moment-là, mais c'est pas la fin du monde en boucle pour à chaque fois, tous les jours et tous les matins. Et inversement, est-ce que vous pouvez rendre médiatique entre guillemets certains événements que les autres chaînes médiatiques ne rendent pas médiatiques?
Ça aussi, c'est
important parce que comme on disait tout à l'heure, il y a des événements objectivement majeurs, il y a des événements qui prétendent à être des événements et d'autres qui disparaissent dans un flou, événement, qu'ils le mériteraient.
Ouais, mais là, je vais vous parler en termes purement... c'est une question de moyens. Je le dis pour le coup à la décharge aussi de... Parce qu'on est évidemment, c'est facile de dire les chaînes d'info, c'est pourri. Ils font leur miel avec le malheur des gens, mettant en boucle toutes les demi-heures. C'est une question de moyens. C'est-à-dire que la télé, ça coûte cher. Il faut beaucoup de journalistes pour faire de la bonne information et surtout pour aller chercher. Mais on revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure. D'un côté, le très très chaud, vérifier l'info, tsunami.
Ouais.
Et de l'autre, avoir du temps d'aller chercher et de faire du reportage. Mais il faut avoir du monde.
Alors, c'est une question de moyens, mais aussi de dialogue. C'est-à-dire si vous aviez, par exemple, vous l'avez, disons si on utilisait systématiquement les relations avec des chercheurs qui disent, voilà, vous, l'actualité est concentrée là-dessus. Mais là, par exemple, en Afrique, il se passe ceci dont vous ne vous rendez pas compte. Ou bien là, le nucléaire, il y a des choses.
Alors,
et parce que les politiques, les responsables ont besoin aussi. Tout simplement que certains sujets qui n'émergent pas émergent.
On va essayer de le faire. On va essayer de le faire.
À travers le rapport à la science ou à la discussion.
On va essayer de le faire parce qu'en fait, on va s'allier entre France Télé, Radio France, France Média Monde. Vous parliez de l'Afrique. Oui, effectivement, nos rédactions ne parlent pas suffisamment de ce qui se passe en Afrique, ce qui est une hérésie éditoriale, je suis d'accord. France Média Monde participe à la chaîne. Tous les jours, il y aura des reportages de France 24 sur la chaîne. Et je pense que, en dépit de tout ce qu'on dira de cette chaîne, où il y aura plein d'imperfections, vous y verrez des choses, avec un peu de recul historique, parce que l'INA va y participer. Enfin, tout un tas de petites briques, de petits grains, qui montreront peut-être ce vers quoi on veut aller.
Ce qui est important, je crois, effectivement, c'est d'articuler les choses dans le temps, le temps court et le temps long, dans l'espace, la France, mettons, ce qui est normal aussi d'avoir son cadre et d'être affecté par ce qui... Et puis le monde. Et pour terminer, finalement, quels sont, inversement, je vous ai beaucoup questionné sur vos exigences à vous, quelles seraient vos attentes, vous, vis-à-vis de ce qu'on appelle les intellectuels, ou parfois proclamés, autoproclamés, proclamés par d'autres légitime ou pas, et quels sont vos critères et vos attentes? Qu'est-ce que vous attendriez, mettons, de discussions justement libres comme celles qu'on vient d'avoir avec, sur l'actualité, avec, je sais pas, des écrivains, des psychanalystes, des sociologues, des anthropologues? Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que ça vous semble, vous avez dit, y a un lien et une distinction? Mais au fond, comment faire communiquer ces discours-là?
Moi, j'aimerais être sûr que la bienveillance est réciproque.
D'accord.
Voilà. C'est un peu, peut-être un peu dur, un peu brut de décoffrage, mais je sais...
Donc elle est de votre côté, déjà? Ça se présuppose qu'elle est de votre côté.
Je l'ai senti
et je pense que c'est...
Mais j'aimerais qu'elle soit réciproque parce que, encore une fois, sans être paranoïaque, la caricature du journalisme et du journalisme de chaîne d'information est facile à établir. Elle est fondée parfois, bien sûr. Elle est fondée sur ce que j'ai essayé de dire depuis tout à l'heure. C'est compliqué.
Vous avez bien fait apparaître.
La bienveillance, c'est de se dire, et je pense que malheureusement, on entre dans cette époque terrible, de fracassante, et qui va, à mon avis, dans pas mal de rédactions, dans pas mal de lieux de production d'informations, nous obliger à nous dire, on va se poser un peu, et on va essayer de réfléchir à tout ça.
Je suis absolument d'accord qu'il faut que la bienveillance soit réciproque, donc vous avez tout à fait le droit, et même c'est nécessaire de la demander, ces gens qui critiquent, qui critiquent parfois sans se rendre compte qu'il y a bien pire derrière, c'est-à-dire qu'ils critiquent sans se rendre compte que ce travail critique
mais immédiat... Mais le pire, c'est l'absence de journalistes,
voilà,
sans être le pire, c'est Facebook, j'ai rien contre Facebook, c'est le réseau, où la mise en réseau sans médiation dépouille et dépouille les citoyens.
Est un moyen de résistance par certains côtés et de détresse de l'autre et de manipulation. Ouais.
C'est tout ce que j'aimerais.
Non, absolument. Mais alors,
ce dont j'aimerais être sûr en face.
Voilà, mettons qu'il y ait ça. Supposons cette bienveillance et qu'on puisse aussi la construire les uns et les autres là où on est. Inversement, vous, comment est-ce que vous pouvez avoir une sorte de bienveillance, c'est-à-dire, au fond, relayer certaines préoccupations intellectuelles, scientifiques, pas en mélangeant les ordres, pas en disant quand il y a un attentat, on va réfléchir au sens au sens de la vie.
Non.
Mais quand même, dans ce travail préparatoire et même dans cette journée qui est complexe aussi pour vous, il n'y a pas que les matins et les instants d'urgence, vous construisez aussi des chroniques. Comment est-ce que vous pouvez vous ouvrir justement à cette vie intellectuelle française, mondiale, qui est réelle? Je sens, moi, un réel contraste. Les étudiants inventent des nouveaux sujets, il y a une recherche en cours dans beaucoup de disciplines.
C'est d'essayer, alors pour le coup de notre côté, d'avoir un peu de... Le quelques gouttes de curiosité qu'on n'a pas... qu'on n'a réussi pas forcément à instiller dans le cocktail d'informations qu'on produit quotidiennement. Pour aller chercher justement, on a des chroniques, j'étais Olivier Delagarde, un monde d'idées, on essaye sur notre chaîne d'info de prendre du recul. Alors ça paraît caricatural parce que on prend 5 minutes,
c'est dans votre format,
et 3 fois 5 minutes par jour pour le faire, et Olivier le fait bien, et je l'incite à aller justement prendre le temps pour aller chercher des gens pas connus, des gens qui... mais après, oui, on est un peu dépourvu. C'est pas dans notre cœur de métier, je vais le dire. Je vais dire, c'est facile de dire tel politique, on sait, il est bon, il est pas bon, il est encarté tel endroit, etc. Et un intellectuel, ça glisse.
Ça glisse. Donc je crois qu'il faut vous reporter non pas à telle figure intellectuelle unique, non pas tellement à construire le débat à travers les autres en discutant. Donc je crois qu'il faut qu'on continue à discuter, que vous nous demandiez aussi. Ouais. Voilà, il faut prendre un peu de temps, et puis en amont et en aval. Et je crois que c'est très important d'avoir tous ce rapport à plusieurs temps pour permettre d'habiter l'époque. Bon. On est obligé, malheureusement. Chiche. Et donc à la prochaine. En vous remerciant beaucoup, Laurent Guimier, directeur de France Info. Je ne l'ai peut-être pas rappelé assez souvent dans la discussion, mais ça s'est bien entendu, je crois. On s'est bien entendu, et donc ça a été bien entendu. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette première discussion du soir. Moi aussi, et à très bientôt. Donc.
À très vite.
Merci beaucoup. Les discussions du soir. Claire Poinsignon, Antoine Viossa, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms.